Pierre, bonjour à tous. Dieu porte, hein, il porte tout, et c'est vraiment ce qui ressort aussi de ce matin. Il a vraiment un projet, et c'est encourageant de passer après tout ce qui a été dit, hein, vraiment. J'avais envie de parler ce matin de choses très banales, hein, de détails anodins de nos quotidiens, à côté desquels on passe tous les jours en fait. Par exemple, l'herbe qui repousse en ce moment, hein, le soleil qui réchauffe, la pluie qui fait vivre, la nourriture qu'on trouve en abondance, chaque beauté, chaque saison, chaque espèce, chaque personne douée qu'on rencontre, chaque saveur, chaque odeur, des choses vraiment banales qu'on rencontre tous les jours. Ça, c'est vraiment le fait de la grâce commune de Dieu. Et c'est vraiment le sujet de ce matin. On a l'habitude, c'est vrai, de parler de la grâce de Dieu qui sauve l'homme. Mais j'avais envie de parler de cette grâce commune qui est plus générale, qui touche vraiment toute la création, qui inonde vraiment notre quotidien, en fait. Parce que comprendre comment Dieu agit, ça a vraiment le pouvoir de nous émerveiller, hein, dans notre quotidien, de changer notre regard sur le monde, mais aussi sur Dieu, parce qu'il nous révèle énormément de choses sur lui au travers de tout ça, et aussi sur les réalités à venir. Donc il nous faut sortir parfois un peu, hein, de notre compréhension directe des choses, de notre quotidien, pour comprendre ce que Dieu fait depuis la chute. Il retient littéralement ce qui devrait se produire. Tous les jours, il le fait. Il retient le monde de la destruction et de la mort. C'est vrai, qui c'est qui aimerait vivre dans un monde comme ça, tous les jours? Ou bien comme ça. Ça ne fait pas rêver, hein, c'est pas vendeur. Ouais, le lundi matin, partir au travail, récupérer de quoi manger pour les enfants. Et encore pire, mais on ne va pas le laisser longtemps parce que ça fait des angoisses. Voilà. Hein ? Le but de ce message, c'est vraiment de nous conduire à la reconnaissance de ce que Dieu fait en faveur du monde tous les jours et depuis toujours. Dans les choses très communes, qui nous semblent banales, mais qui en fait, si on ne les avait pas, nous manqueraient énormément. Donc, qu'est-ce que la grâce commune? Une définition qu'on pourrait trouver dans un bouquin de théologie, ce serait celle-ci. Ce sont les innombrables bénédictions accordées par Dieu aux hommes et au monde, et qui ne sont pas forcément liées au salut lui-même. Elle est donc plus générale, hein, elle touche toute la création, et on est au bénéfice, on est tous au bénéfice, croyants ou incroyants. Tout le monde bénéficie de cette grâce. Matthieu 5 nous dit « Il accorde la pluie à ceux qui sont justes comme à ceux qui sont injustes. Il fait luire son soleil sur le bon comme sur le méchant. » Et le psaume 145 nous parle un peu plus encore de ça. Il nous dit « L'Éternel est plein de grâce et de compassion. Il est lent à se mettre en colère et il est riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes ses créatures. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. » L'Éternel tient ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tout ce qui tombe. Il relève tout ce qui fléchit. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans tous ses desseins, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Il est vraiment ce tout, hein. Donc cette grâce, elle ne se limite vraiment pas à nous croyants. Elle est vraiment répandue sur tout le monde. Et en même temps, ce n'est pas une grâce qui sauve, c'est plutôt une grâce qui arrose, en fait. Elle conserve et elle améliore la condition du monde par rapport à ce qu'il devrait être. Et pourquoi il fallait user de grâce, hein? Parce que le monde, il est sous la coupe d'un jugement, hein? C'est Romains 5 qui nous le dit, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Et par le péché, la mort s'est étendue, elle s'est répandue. Au chapitre 8, Paul nous dit « La création a été soumise au pouvoir de la fragilité. La création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. » Le projet initial de Dieu pour ce monde, il est décrit à plusieurs endroits dans la Bible, hein, et à chaque fois, c'est une création harmonieuse, en paix, débordante de vie, généreuse. C'est l'expression de la perfection de Dieu, hein. Et la finalité de ce projet, hein, de cette création de Dieu, c'est vraiment l'adoration universelle. Et il est clair qu'en fait, au moment de la chute, hein, on a fait prendre un tout autre chemin à ce projet-là. On a choisi la mort pour lui. Et on l'a fait consciemment, puisque Dieu avait prévenu. Il avait dit, si tu choisis ça, tu mourras. Et la création est unie à ce choix-là que l'homme a fait. Donc la conséquence, elle a été directe. Hein. C'est en Romains 6, verset 23, qu'on a cette phrase. Le salaire du péché, c'est la mort. Il s'agit d'un décret de Dieu, une parole vraiment fondatrice sur le monde, que rien ne peut annuler. Et selon ce décret, tout aurait dû s'arrêter net au moment de la chute, il y a des milliers d'années. Hein. Il ne devait pas y avoir de lendemain, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la nécessaire justice de Dieu. Et parfois, cette justice, elle nous contrarie, on la comprend mal. Nous. Pourtant, c'est elle qui préserve le projet de Dieu pour ce monde. C'est elle qui nous dit ce qui est bon, agréable et parfait. C'est elle qui nous parle du projet de Dieu. Et ce décret, c'est comme une clause d'assurance pour Dieu, dans lequel il nous dit, si c'est corrompu, moi je ne marche pas, parce que ça n'est pas mon projet, et que j'habite pas au milieu de la corruption, c'est pas mon projet. Il faut garder à l'esprit que Dieu est très clair, hein. Le péché, ça n'est pas son plan. Il a une idée pour le monde, il a une intention précise pour ce monde. On ne peut pas demander à Dieu d'arrondir un peu ses angles. On ne peut pas demander à Dieu de ne plus être Dieu et de ne plus avoir ce bon projet pour le monde. On est obligé d'écouter ce qu'il nous dit, d'ouvrir nos yeux à ce projet-là parce qu'il est bon. Et nous, quel est le projet que l'humanité a pour ce monde ? Les siècles d'histoire nous montrent qu'on n'a pas vraiment de très bons projets pour le monde. Donc c'est vraiment passé quelque chose au moment de la chute. Ça a été un moment critique. Un moment de bascule dans l'éternité. Pourtant, le monde n'a pas été détruit. Parce que Dieu a choisi d'intervenir. Dieu l'a voulu, il a choisi. Il a décidé de différer ce jugement, de différer ce décret. Et il a fait entrer la terre dans un temps de patience. Il a voulu réconcilier le monde, l'univers entier, avec lui-même. Ça, c'est Colossiens 1 qui nous le dit. Et c'est une vraie grâce. Au moment où il a fait ce choix, il s'est engagé pleinement, puissamment envers le monde. Il s'est engagé à le soutenir, à le maintenir, à continuer à le faire vivre tous les jours, malgré le pouvoir de la corruption. Toute la Bible nous parle de ça, hein, de l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en place en notre faveur. Ça, c'est Éphésiens qui le dit, Éphésiens 1. Colossiens 1 nous dit, en parlant de Jésus, il est lui-même avant toute chose. Et tout subsiste en lui, subsiste, continue d'exister en lui. Hébreux 1 nous dit, il soutient toute chose par sa parole puissante. On voit en Genèse que la parole de Dieu a créé le monde, et on voit dans ce passage que c'est la parole de Dieu qui soutient le monde depuis le début. Si Dieu ne faisait pas ça, le monde s'écroulerait en fait, hein. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie possible. Il est la vie, le mouvement et l'être. C'est vraiment comme si on imaginait le monde comme un gros ballon incandescent entre les mains de Dieu, prêt à exploser, et Dieu qui lui dit « Vis malgré ton sang. Je te dis de vivre malgré tout ce sang. » Ça, c'est une parole dans Ézéchiel, au chapitre 16. Donc, il n'a pas permis à la terre qu'elle devienne informe et stérile. Et quand les fondements du monde vacillent, c'est Dieu qui fait preuve de grâce pour continuer à faire vivre. Il s'agit d'un temps de patience qui est plutôt vraiment favorable pour nous, parce que on peut voir dans quel monde on vit, en fait, se rappeler du premier diaporama, hein, et de se rendre compte, en fait, qu'on s'en sort vraiment pas mal. Dieu n'a pas appliqué son décret, il le diffère. Et en même temps, le jugement partiel qu'il a prononcé sur le sol, sur la terre, le sol est maudit à cause de toi, et il n'est pas si catastrophique en fait. On voit quand même qu'il retient ça. La vie continue d'être possible, la nourriture continue d'être trouvée, les saisons s'enchaînent et elles déversent leur lot de bénédictions. Ça, c'est le monde dans lequel Dieu a voulu qu'on vive. C'est un miracle, tous les jours, ce qu'on vit. Hein. Comptons les bienfaits de Dieu, comme ça a été dit. Il est particulièrement bon. Et si on croit ne pas le voir, parfois dans nos quotidiens, on est parfois découragé. Hein. En fait, non. Ça nous encourage à ouvrir les yeux parce que chaque détail anodin nous parle de lui et de son projet glorieux. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait grâce ? Parce qu'il l'a voulu. Il l'a décidé. Il n'était pas obligé de le faire, il n'était pas tenu de le faire, il n'était même pas tenu de le faire dans ce degré-là de bonté. Il aurait très bien pu maintenir un semblant de vie, hein, mais en fait, ça n'est pas le cas. En fait, il a décidé de manifester énormément de bonté parce qu'il a tant aimé le monde. Ça a été dit ce matin. J'ai tant aimé le monde. C'est pour lui un moyen de témoigner merveilleusement de qui il est. Son amour, sa bonté, sa bienveillance, sa puissance, sa sagesse, sa sainteté, sa fidélité, sa patience. Il y a tellement d'attributs de Dieu qui sont mobilisés dans cette affaire que c'est un témoignage énorme qu'il nous rend sur lui-même. Il nous enseigne énormément de choses sur lui. Romains 1 nous dit « La perfection de Dieu, sa puissance, sa divinité sont visibles dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Prenons vraiment le temps d'y réfléchir. On est bien loin de pouvoir tout comprendre, hein, c'est sûr, mais en tout cas, il a cette volonté de se faire connaître. Ça nous sort de nous, hein, un peu. Et pourquoi Dieu continue de faire vivre le monde, hein, c'est vraiment parce qu'il a un projet pour lui. Ça a été dit ce matin, Dieu a un projet. Ce monde. Depuis la chute, il a décidé de maintenir ce projet malgré le pouvoir de la corruption. Ce projet, c'est l'adoration vraiment universelle. La promesse est faite de la victoire totale sur la mort. La création participe à cette promesse. C'est Romains 8 qui nous le dit. Je n'ai pas sur le diaporama, mais je vous le lis. La création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Il lui a donné une espérance à la création. C'est qu'elle sera libérée de la puissance de corruption qu'il a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Donc je mets vraiment l'accent volontairement sur le monde dans lequel on vit, la création, hein, parce qu'en fait il ne s'agit pas que de nous, il ne s'agit pas que de l'homme dans la pensée de Dieu. C'est vraiment un tout qu'il a créé et c'est un tout bien cohérent qu'il veut pour l'adorer. Et il faut aller voir pour s'en convaincre dans l'Apocalypse, le chapitre 4 et 5, qui nous parle de cette vision autour du trône de Dieu, hein, cette adoration universelle autour de Dieu. On y rencontre un arc-en-ciel, 24 vieillards, 4 êtres vivants, donc ça c'est il y a une symbolique, hein, les anges, tous les anges rassemblés en grand nombre, et je cite, « Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, tout ce qui peuple l'univers. » Et qui dit, Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur, puissance, parce que tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Il ne s'agit donc pas que de l'homme. Il y a vraiment un enjeu d'adoration dans lequel on est invité et dans lequel la création entière est invitée. On ne connaît qu'un avant-goût des choses à venir. Dieu nous parle tous les jours du paradis. Dans les choses communes de notre quotidien. Il nous dit ce qu'il a mis en place et ce qu'il régénérera encore plus beau. Il y a une grande question des philosophes, hein, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien du tout, hein, dans le monde ? Mais en fait, parce que Dieu veut qu'il y ait quelque chose et il veut que ce projet soit glorieux. Il nous dit qui il est, il nous dit ce qu'il prépare. Alors vraiment, ouvrons nos cœurs à ça, ouvrons nos yeux à ce qu'il nous dit. Alors, en pratique, quelles sont les manifestations, hein, pour nous de cette grâce, et quels sont ses effets, notamment dans nos vies en tant que croyants? Elles sont nombreuses, puisqu'en fait, elles conditionnent littéralement notre existence, hein, nos conditions de vie, en fait. On est baigné par la grâce de Dieu, parce que toute forme de vie est le fait de la grâce de Dieu. Et l'arrivée du printemps nous aide particulièrement à ouvrir les yeux sur ces bontés de Dieu qui se renouvellent chaque jour, saison après saison, hein, année après année. Alors, vraiment, mettons-nous au défi, hein, de prendre le temps de se laisser toucher, hein, en profondeur, au moins une fois par jour. Et puis, avec l'habitude, on apprendra aussi à ce que ça soit beaucoup plus fréquemment. Dieu déploie beaucoup de grâce dans sa création. Ça peut être observer une fleur qui bourgeonne, hein, quelque chose de tout petit. Ça peut être un paysage magnifique qui nous fait quelque chose, une couleur particulièrement belle qui attire notre attention, un son, une mélodie qui nous porte, une saveur, une odeur. Dire merci à Dieu pour ces choses-là. Si notre œil sait voir la main de Dieu dans ces toutes petites choses, on peut vraiment se retrouver vite submergé par l'amour de Dieu, parce que c'est autant de clins d'œil où il nous dit « J'ai tant aimé le monde, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. » C'est ce qui a été dit, ça a été dit ce matin. « Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. » Il y a quelque chose. Il y a un deuxième domaine qui est beaucoup impacté aussi par la grâce de Dieu. C'est les domaines intellectuels et artistiques. Dieu a choisi de continuer à faire des dons aux hommes et à tous les hommes, pas simplement aux croyants, hein, et d'autant plus du coup aux incroyants puisqu'ils sont plus nombreux que nous. Ça s'exprime dans des domaines vraiment variés comme les arts, la musique, la gastronomie, le sport, l'écriture, les inventions, le domaine professionnel aussi, ça a été dit ce matin. On est chacun responsable de ces dons, de ce qu'on en fait. Mais il nous faut bien reconnaître que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Satan parce qu'il n'est pas capable de créer. Il n'est encore moins capable de nous donner quelque chose de bon. Il nous apprendra toujours à mal l'utiliser. Parce que son projet, c'est de détruire cette adoration qui est due à Dieu. Donc mettons-nous vraiment au défi de reconnaître les dons particuliers que Dieu a fait à chacune des personnes qui nous entourent. Et particulièrement aux incroyants. Parce qu'on a vraiment besoin de prendre conscience que la main de Dieu va au-delà de ce qu'on imagine. Il y a un troisième domaine qui est hyper important pour nous, c'est le domaine moral. Dieu empêche l'homme d'être aussi mauvais que ce qu'il devrait être, notamment par le don de la conscience. C'est un don qu'il a fait à tous les hommes. Et vraiment, on peut être reconnaissant pour ça, c'est une grâce, parce que s'il ne l'avait pas fait, il faudrait s'imaginer vivre au milieu de 6 milliards de psychopathes, le lundi matin pour être encore plus douloureux. On aurait vraiment beaucoup plus envie de le retrouver. Alors en tant que croyant, quels sont les effets de cette grâce sur notre foi? Là encore, ils sont nombreux parce qu'ils changent vraiment aussi notre regard. Ils nous donnent une meilleure connaissance de Dieu, de sa personne, de son projet pour le monde. Prenons le temps de nous laisser toucher par ce que Dieu dit de lui. Un deuxième effet, c'est l'assurance que Dieu nous garde, la protection de Dieu. Dieu ne permet pas au mal d'aller au-delà de certaines limites. Vraiment. Le mal est contenu. Dans l'Apocalypse, c'est l'image de cette bête qui est précipitée et enchaînée. Enchaînée, ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus aucune influence, mais quand un chien est attaché, il a une certaine latitude selon la longueur de laisse qu'il a, et il peut bouger librement dans l'espace qui lui est imparti, mais il ne peut pas aller au-delà. Et c'est pareil pour le mal sur Terre. Cet enseignement, il est super important dans nos temps de persévérance et de patience. Non, le mal, il n'est pas tout puissant, c'est faux. Parce que Dieu soutient le monde, qu'il le garde avec une extraordinaire puissance. Un autre effet, c'est celui de s'approprier notre rôle de gestionnaire efficace. Si Dieu conserve le monde et son projet pour le monde, qu'en plus il nous réconcilie avec lui, alors on a vraiment des bonnes raisons de se réapproprier cette vocation terrestre qu'il nous avait donnée en Éden, de s'occuper de la terre. De s'occuper de cette terre qui a vocation à l'adorer. Il y a vraiment là tout un programme pour nos vies, ça peut occuper tous nos quotidiens. On est participant du projet de Dieu. C'est un motif d'évangélisation extraordinaire aussi, puisque beaucoup de gens sont très sensibles à la force de vie qu'il y a dans la création. Ça va même jusqu'à en faire une religion, le panthéisme, croire que Dieu est dans ses éléments, ce qui est faux. Mais par contre, ces éléments sont sous l'effet de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont émerveillés par les dons de l'homme. Et c'est aussi une occasion de témoignage immense. On n'a plus qu'à leur dire, on n'a plus qu'à poser un nom sur la source de tout ça. Et c'est ce que Paul fait dans son discours à Iconium en acte 14. Il dit « Dans tous les siècles passés, Dieu a laissé tous les hommes suivre leur propre chemin. » Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il nous envoie du ciel la pluie et les fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne la nourriture en abondance et qui comble vos cœurs de joie. Le discours de Paul, en fait, c'est de dire, mais vous connaissez Dieu parce qu'en fait, il fait pleuvoir et il vous donne des fruits. Mais en fait, réellement, c'est vrai. Hein ? Racontons vraiment l'œuvre de Dieu au monde. Et c'est aussi une grosse remise en question de l'idolâtrie, parce que dans la Bible, on voit clairement que les idoles s'accaparent la gloire de Dieu. On voit qu'il y a des dieux pour la fécondité, il y a un dieu pour la moisson, un dieu pour la pluie, des dieux pour les victoires des hommes, pour les dons qu'ils peuvent donner, dieu de l'ivresse et des plaisirs, etc., etc. Toutes les religions polythéistes sont construites sur ce schéma-là, de détourner la gloire qui est due à Dieu. Et on peut se poser cette question-là hein, dans nos vies. À qui j'attribue toutes les grâces de Dieu ? Le fait de manger. Oui, on a l'habitude de prier pour la nourriture. Parfois, c'est une rengaine un peu quotidienne. Mais en fait, réellement, oui, à qui je dois tout ça, en fait ? Et Dieu s'attend à ce qu'on reconnaisse son œuvre. Hein. On voit dans la Bible comme il est jaloux, comme il ne supporte pas, en fait, à chaque fois que le peuple donne, attribue ses œuvres à quelqu'un d'autre. Donc tout ça, ça nous pousse à la reconnaissance, à l'adoration. C'est vraiment le but de nos vies. Adorer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour chaque détail, pour chaque beauté, chaque saison, chaque espèce, hein, on l'a dit, pour les dons d'une personne, etc., etc. Toute la Bible nous encourage à le faire, hein, à faire monter les actions de grâce vers Dieu, notamment dans les psaumes. Et c'est pas que de la douce poésie quand on lit des psaumes. Hein. C'est vraiment à chaque fois que l'auteur a les yeux ouverts sur quelque chose, sur une gloire universelle en fait, éternelle. Et ça le sort de lui, vraiment. Ça le transporte. C'est une thérapie pour l'âme, vraiment. Un souffle qui se renouvelle chaque jour. Parce que Dieu n'arrête pas de dire « J'ai tant aimé le monde ». J'avais les paroles de ce petit chant, de ce vieux chant, c'est Dominique qui l'a donné ce matin, j'étais contente. « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre est grand ». Cette reconnaissance, elle est vraiment possible en toutes circonstances parce que, justement, elle n'est pas fonction de nos circonstances. Il y a toujours un sujet pour lequel on peut être reconnaissant malgré la difficulté dans laquelle on se trouve. Et c'est ça qui nous sort un peu de nos situations aussi. Ne nous laissons pas trop dire que les choses vont mal. Hein, c'est la doctrine qui résonne dans nos tympans à longueur de semaine. Hein, le monde, il va mal, certes, mais il ne va pas aussi mal que ce qu'il devrait. Dieu ne nie pas le problème de la souffrance, mais il ne faut pas non plus que le problème de la souffrance nous empêche de voir la grâce de Dieu. On est riche de tout ce qu'il nous donne, vraiment. Nous vivons dans une société, dans un pays qui est particulièrement riche. Je ne vous encourage pas à le dire sur un rond-point en ce moment, hein, mais en réalité, on est riche de tout ce que Dieu nous donne. Enfin, un dernier effet, mais je pense que ce n'est pas exhaustif du tout, hein, c'est tellement large en fait ce que ça produit chez nous, mais j'avais envie de le dire, c'est une conviction forte pour la fin des temps et pour la nouvelle terre. Hein, ce qu'on appelle la parousie, le moment où Jésus va revenir dans sa gloire et où toute chose sera renouvelée après que le nécessaire jugement soit intervenu. La fin du monde tel qu'on le connaît ne doit pas nous surprendre. Hein. On sait qu'il est annoncé et maîtrisé par Dieu. Le pouvoir de la fragilité doit cesser, parce que le projet de Dieu est plus glorieux encore. La gloire des choses à venir est grande et elle arrive. Jésus prépare ce jour, prépare ce moment. Et si ça, c'est la terre qui a été maudite, hein, que sera la terre qu'on va connaître quand la promesse de régénération s'accomplira pour elle aussi ? Ésaïe 11 nous dit « Le loup vivra avec l'agneau, la panthère sera aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, un petit enfant les mènera au pré. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Dieu, il ne tarde pas hein, à accomplir sa promesse. Il fait preuve de patience, il fait preuve de grâce. Alors soyons en paix, hein, dans la joie, parce que Dieu nous parle tous les jours du paradis. Il nous éveille à ça, il nous invite à le désirer, hein, dans les choses les plus communes de notre quotidien. Donc prenons vraiment cette mesure hein, de la grâce de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Voilà, c'était un message où il n'y a rien de bien nouveau, hein, on le sait, mais ça nous invite à profiter vraiment de la grâce de Dieu, de la générosité de Dieu, dans les choses banales, vraiment. Le monde, il est certes fragilisé, mais il est vraiment loin d'être anéanti. Et les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est un sujet d'émerveillement, de louange, de témoignage. Hein. Les scénarios d'Apocalypse nous disent, hein, Hollywood en fait régulièrement, ils nous pondent un film là-dessus, ça nous parle de cette peur que l'homme a, que Dieu arrête de soutenir ce monde. Hein. Mais nous, n'ayons pas peur, hein, soyons en paix avec Dieu, plein de foi, rempli d'espérance, parce que le pouvoir de la fragilité va cesser et que la gloire des choses qui viennent après, elle est grande, hein, elle arrive. Comment que cette pensée du bon, du agréable et du parfait nous habite, hein. Paul y prie comme ça aux Éphésiens, au chapitre 1, il dit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit, donc le Père, le Fils, l'Esprit, vous donne sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste votre espérance, quelle est la glorieuse richesse de votre héritage et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur. » Je termine sur Romains 1, je l'aurais dit une fois. « Ses perfections, sa puissance, sa divinité sont visibles dans ses œuvres quand on y réfléchit. »